Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente. Comme c'est marqué sur la planche, je m'appelle Yves Fournier. J'ai 81 ans. Je suis un ancien de Framatome, en retraite depuis un certain temps. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière, enfin la fin de ma carrière professionnelle, puisque j'ai travaillé dans d'autres entreprises, à Saint-Marcel, où j'étais responsable de la technique. Maintenant, j'ai un boulot de retraité. Je m'occupe d'une association qui s'appelle Université pour tous de Bourgogne, qui donne des conférences culturelles sur tout sujet, et entre autres sur la science et la technique. Et quand on a des conférences sur le nucléaire, bien évidemment, à Chalon, ça se passe chez nous. Voilà. Et les conférences que je vous propose là, je les ai faites d'une façon beaucoup plus détaillée devant notre public et devant le public de la SFEN. On vous a déjà parlé de la SFEN? Vous savez ce qu'est la SFEN? J'ai même été président de la SFEN Bourgogne-Franche-Comté, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Donc je suis un apparatchik du système. Donc l'histoire que je vais essayer de vous raconter, c'est une histoire que je n'ai entendue ni à l'école, ni à l'école de spécialité, puisque j'ai fait l'INSTN. Vous savez ce qu'est l'INSTN? Donc il y a très longtemps, en 1966, et j'ai un beau diplôme. En plus, je suis Gadzar, hein, j'ai fait arts et métiers, nul n'est parfait. Donc à l'INSTN, on m'a pas raconté cette histoire, et même à Framatome, on me l'a pas raconté non plus. Donc j'ai senti qu'il y avait un besoin. En fait, c'est venu essentiellement de la conférence sur le projet Manhattan. Donc la conférence de base est là, 130 planches. Donc j'ai pas mal élagué. J'ai changé le titre, au lieu de l'appeler Projet Manhattan, acquisition des connaissances sur la fission. Je sais que parmi vous, il y en a bien un bon tiers qui a déjà des spécialités sur la neutronique. Donc, je vais parler pour d'autres dont le niveau de physique est certainement moins pointu que ça. Je ne vais pas vous faire un cours de physique nucléaire, rassurez-vous tout de suite, mais je vais rappeler un petit peu les fondamentaux. On y va. Voilà le plan. J'ai oublié de prendre mon pointeur, tant pis. Bon. Oui? Ah bah oui, j'ai abandonné le micro. Là, ça va mieux? Voilà. Excusez-moi. Je suis un peu perdu dans tous mes appareils là. Donc, rappelons quand même qu'au début du XXe siècle, vous le savez tous, la physique a subi une révolution tout à fait considérable. Et là, je vous parlais d'histoire des sciences et non pas du sujet. Donc, la mécanique quantique, hein, donc qui en 20 ans, on va dire de 1900, Max Planck et jusqu'à Schrödinger, a fait connaître la structure du nuage atomique d'abord, et ensuite de ce qui se passe à l'intérieur du noyau. La relativité, qui s'est passée tout à fait en parallèle, puisqu'il y a un gars qui est dans les deux écoles, hein, c'est le fameux Einstein, la relativité d'abord, et la relativité restreinte et la relativité générale. Donc en 1915. J'ai pris ce petit dessin qui est sympa en disant voilà l'évolution sur la connaissance qu'on a de la structure du noyau. Du noyau et du nuage électronique. Et donc vous voyez, ça s'est passé quand même 1926, Schrödinger, on va dire les quantas c'est 1900. Donc vous voyez, c'est une période très courte. C'est quand même extraordinaire pour dire que, par exemple, quand Marie Curie a découvert la radioactivité, elle a dit très bien, elle l'a écrit, je ne comprends pas ce qui se passe. J'observe le phénomène, je le décris, mais je ne le comprends pas. Et c'est Rutherford qui a dit, moi je ne comprends pas non plus, il faut que j'essaye de comprendre. Et c'est lui qui a compris. Voilà, c'est suite aux travaux de Curie, de Marie Curie, que ça l'a incité à essayer de comprendre, et en particulier, c'est lui qui a découvert l'existence du noyau, qui était tout petit au milieu, hein, et le rôle de l'électron, et etc., etc. La radioactivité, le noyau peut se transformer, donc le vieux mythe des alchimistes, finalement, se réalise. Bon, c'est ça. Et puis, de ce noyau, quand il évolue, ben, il émet des tas de trucs. Alors, on ne s'est pas cassé la tête pour les nommer. On a fait alpha, bêta, gamma. Ce n'était pas preuve d'une imagination débordante. Voilà. Vous savez tous ce que sont ces différentes radiations et particules. Donc alpha, on a su démontrer que c'était des noyaux d'hélium, et le neutron, il est arrivé, donc je rappelle, c'est M. Chadwick, un physicien anglais, hein, donc 1934, si ma mémoire est bonne, où il a démontré finalement l'existence du neutron. Et le fait qu'on ait trouvé le neutron en disant « Ah, bingo !» c'est vachement bien, parce qu'il y a une particule avec laquelle on va pouvoir jouer aux quilles et à la pétanque sans avoir l'inconvénient de la répulsion électromagnétique. Et là, M. Fermi s'est emparé de ça en disant « Je vais canarder de neutrons tout le tableau des éléments. » Et il a fait son prix Nobel en 1938 avec la somme de ses travaux sur le canardage par neutrons de tous les noyaux de la classification. Et finalement, ce tableau de Mendeleïev, 50 ans après, je rappelle 1869, 50 ans après, on dit ben finalement, c'est un mode d'explication de la structure du noyau. C'est génial, ça y est, j'ai tout compris. Donc un élément, c'est un nombre atomique, c'est le nombre d'électrons périphériques. La chimie, c'est ce qui se passe dans les interactions des noyaux électroniques. Et la physique nucléaire, ben, tout ce qui se passe dans le noyau. Et c'est là qu'on a inventé le fameux nom isotope. Vous savez tous ce que veut dire isotope ? Non ? Oui ? Non, mais ça veut dire quoi, l'étymologie de isotope ? Iso, la même, top, le même endroit. C'est-à-dire qui est dans la même case du tableau de Mendeleïev. OK. Donc on dit, ben maintenant on peut représenter ce tableau comme un fichier avec des fiches en carton, et puis vous empilez tout ça, les isotopes, c'est dans la même case, c'est la troisième dimension. Ok. Et dans les isotopes, comme il y a le même nombre atomique, eh bien la chimie est la même, mais la physique n'est pas la même puisqu'il n'y a pas le même nombre de nucléons. Voilà, j'ai réussi à le faire en 4 minutes. On s'arrête sur la physique nucléaire. Alors, qui sont tout ça ? Ce sont des acteurs qui ont fait tous ces travaux. Qui sont-ils ? Ils sont très divers, pas si divers que ça finalement. Tout s'est passé aux États-Unis, tout simplement. Merci Monsieur Hitler, qui a... disons, susciter une émigration massive de tous les savants juifs à partir de 1933 aux États-Unis. Donc, ils ont été déterminants dans la suite des événements. Je rappelle qu'avant le nazisme, il y avait des échanges universitaires très fréquents et en général financés par des fondations américaines, c'est-à-dire Rockefeller, Carnegie Mellon, etc., etc. Et il y avait des bourses. Et donc, c'était des Américains qui donnaient des bourses à monsieur Bohr pour aller à Göttingen ou pour aller à Berlin voir monsieur Max Planck. Tous ces gars-là, les politiques ne les connaissent pas, sauf quelques vedettes, je citais des noms, hein. Donc Einstein, Curie, bon, ça on ne peut pas les éviter, mais les autres, alors vous les connaissez moins, Conant, Urey et Compton, qui sont des grands physiciens chimistes américains. Il y a beaucoup de juifs, comme je l'ai dit, et puis on est dans une logique de partage des connaissances à travers les revues scientifiques. Ce qui n'était pas du tout dans la culture, par exemple, des pays de l'Est ou des choses comme ça, du temps des communistes, bien évidemment. Avant même le conflit mondial. Alors, il y a les deux sectes, on va dire, les théoriciens. L'exemple typique, Oppenheimer. Alors, qui a vu le film Oppenheimer? Bon, alors là, bravo. Donc il est génial. D'ailleurs, il a eu tous les... Mais surtout, je n'ai pas découvert d'erreur historique, bien que ce ne soit pas le sujet du film, la partie scientifique, je n'ai pas vu d'erreur. Autant que j'ai pu... Et donc c'est une autre intrigue qui est réelle, qui était la bataille contre Oppenheimer pour l'éjecter du système, disons dans la période du McCarthyisme. Il y a des expérimentateurs, donc je vais citer Fermi, hein, je crois que c'est celui qui est le plus emblématique, et Fermi, il est en même temps un bon théoricien. Donc c'est un des rares de la bande qui sait faire les deux. Hein. Et d'ailleurs, dans la pile de 42, c'est lui qui disait de combien il fallait retirer les barres de contrôle de la pile de Chicago. Alors là, je vous passe voilà la liste. Alors, ces fichiers, je vais vous les donner. Vous pouvez les diffuser. Et si vous voulez regarder un petit peu le CV de chacune de ces vedettes, vous le ferez à la maison. Donc, j'ai mis en rouge ceux qui ont obtenu par la suite des prix Nobel. Non, en rouge, c'est ceux qui ont participé autant pour moi, ceux qui ont participé au programme Manhattan, et les autres, les N, c'est ceux qui ont eu des prix Nobel. Vous voyez, il y en a beaucoup. Regardez tous ceux que j'ai mis en Angleterre, pratiquement tous ont eu un prix Nobel. En Allemagne, il y en a beaucoup. Danemark, Niels Bohr, et vous ne le savez peut-être pas, son fils a eu un prix Nobel 25 ans après, sur un sujet différent. Ça, c'est moins connu. Ensuite, il y a des Russes, bien sûr, et beaucoup d'Américains, et bien sûr, beaucoup d'Américains qui ont participé au programme Manhattan. Et voilà quand même les Français. Donc on va s'arrêter un petit peu. Pierre et Marie Curie, je ne vous en parle pas, vous les connaissez tous. Donc le grand balèze, là, c'est Kovarsky. C'est un Français d'origine ukrainienne, hein, hostile aux neutrons rapides, historiquement. Ça, c'est une curiosité. Donc vous voyez les Curie qui sont là. Vous voyez Goldschmidt. Vous connaissez Goldschmidt ? Le seul Français qui ait participé au programme Manhattan, dans la chimie. C'est lui qui a fait la séparation en phase liquide pour extraire le plutonium. Et c'est lui qui a prévenu De Gaulle, en 1944, de l'existence du projet Manhattan dans les chiottes de l'hôtel dans lequel il habitait, pour qu'il n'y ait pas de micro. Voilà. d'Autry, c'est le ministre, et vous voyez Perrin, Jean Perrin, donc le premier haut commissaire à l'énergie atomique. Le von Alban, il n'est pas là-dessus. Goldschmidt, il est là. Oui. Et voilà les Italiens. Donc, vous reconnaissez Fermi, hein ? Et Pontecorvo. Alors, celui-là, il est passé et il est resté. Il est passé à l'Est. Et c'était un agent double communiste militant, Pontecorvo, de la Via Panispera. Via Panispera Boys à Rome. Et voilà, alors c'est ce qu'on appelle classiquement le complot hongrois. Il y a quatre Hongrois qui ont joué un rôle capital, essentiellement des théoriciens. Donc Szilard, le fameux Szilard, c'est lui qui le premier a eu l'intuition de la réaction en chaîne en 1933, et c'est lui qui a été la mouche du coche, on va dire, de tout le projet Manhattan, qui a fait chier tout le monde pour que ça démarre et qui a fait chier tout le monde pour que ça s'arrête, sans succès. Voilà. Wigner, c'est un théoricien, et voilà le fameux Jojo qu'on voit dans le film Oppenheimer, Teller, qui lui s'est opposé à Oppenheimer, parce qu'il voulait tout de suite faire la bombache. Et Oppenheimer lui a dit, écoute, on essaye déjà de faire la bomba, on ne sait pas si ça va marcher, on verra ça par la suite. Et donc, il y a une scène où on le voit qui s'engueule, c'est dehors, hein, il s'engueule, c'est dans le village de Los Alamos, il s'engueule avec Oppenheimer. Et von Neumann, donc c'est le genou de la bande, puisqu'il est arrivé qu'à la fin du projet Manhattan. C'est lui qui a fait les calculs, en particulier de dire à quelle hauteur il faut que la bombe pète pour que ça fasse le plus de dégâts possible. Et c'est un bon calculateur, ça a été efficace. Alors, il y a des filiations qui sont liées aux universités dans lesquelles les têtes de file étaient localisées. Rutherford, bien sûr, c'est le Cavendish à Cambridge. Bohr, c'est le Danemark. Et Sommerfeld, c'est Berlin, dit de mémoire. Oui, le nom que je cherchais tout à l'heure dans les grands théoriciens, c'est Bethe. C'est pas Bethe, Bethe. Im Deutsch. Voilà. C'est lui qui a découvert, il a eu le prix Nobel pour sa découverte des réactions nucléaires dans le Soleil, c'est-à-dire le cycle de l'oxygène. Et surtout, j'y tiens beaucoup à celle-là, voilà toutes les institutions qui participaient à tout ça. Vous voyez toutes les bourses et les universités américaines, hein, et vous voyez les grands lieux où ça se passe, donc Montréal, Cambridge, j'ai cité, Manchester, Berlin, Carl Wilhelm Institute, Max Planck, Göttingen. Alors, je fais toujours de la pub pour Göttingen. Göttingen, 130 000 habitants, jumelé avec Pau, et qui est la plus grande université mathématique du monde, dont à Pau, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé l'équivalent. Et tous les théoriciens sont passés à Göttingen. C'était la Mecque de la théorie. Copenhague, ben c'est les bords. Et c'est la deuxième, je fais une pub toujours d'enfer pour le SCP Paris, donc l'école de chimie et physique de Paris, qui est la seule école à statut particulier, qui a le record des prix Nobel scientifiques en France. Vous cherchez dans l'université ou dans les grandes écoles, vous allez avoir du mal. À part la rue d'Ulm, comment ça s'appelle, Normal Sup. L'Institut de Radium, fondé par Marie, et Rome, donc avec Fermi, le Collège de France. etc., etc. Donc tout ça, ça a marché parce que toutes ces institutions communiquaient en permanence. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait le télégramme, mais donc ça allait à la vitesse de l'époque. Hein. Et de la même façon, les grandes revues scientifiques qui contrôlent par les pairs, et tout y est, et en particulier Nature. Nature, c'est la première revue scientifique, on va dire, du 19e siècle. Les plus vieilles revues scientifiques, vous les connaissez, c'est la Royal Society, hein, c'est là, et l'Académie des sciences. Mais l'Académie des sciences, il y a des comptes rendus que depuis M. Arago, en 1939, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, etc., etc. Donc, culture du partage des informations à travers les revues scientifiques. Et puis, une couche en plus, les fameux congrès Solvay. Vous avez déjà entendu parler des congrès Solvay. Donc Solvay, c'est un industriel chimie belge qui gagnait suffisamment de sous pour se payer le luxe de faire des congrès scientifiques avec toute la crème de la crème du moment. Et c'était le moment où ça bougeait beaucoup dans la physique et la chimie aussi un petit peu. Et la seule femme qu'il y avait là-dedans, ben c'est toujours la même, bien sûr, c'est Marie Curie. Personne ne l'appelait jamais madame, c'était Madame Curie. On a toujours appelé Marie Curie Madame Curie. Voilà. Elle était extrêmement respectée. Et donc voilà les thèmes de ces. Et en 1933, il se passait des choses. On a un peu arrêté les congrès Solvay. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous connaissez tous ce diagramme. Oui, non. Alors, oui, le premier rang, tout le monde le connaît. C'est pas la peine que j'explique. Bon, ok. Et les fameux zooms, donc sur les cases qui nous préoccupent, et donc l'interprétation des différentes natures de radioactivité. Donc voilà, bêta moins, bêta plus, PN et alpha. On descend deux cases comme ça et on crache un noyau d'hélium. Ça, c'est facile parce que quand je vois la plupart des gens connaissent, ça me permet d'aller plus vite. Vous connaissez tous le spectromètre de masse ? Ouf, pas vraiment, donc j'insiste un peu plus là. Donc ça a été inventé par un monsieur Aston, il a eu le prix Nobel pour ça, juste après la guerre. Il suffit simplement, en phase gazeuse, d'avoir des isotopes, donc un numéro atomique qui est différent, et on les sépare finalement grâce à des champs magnétiques. On le fait prendre un virage, et puis en fonction du numéro atomique, ben, la déviation est différente. Et ça, c'est un principe qui serait utilisé dans une des méthodes d'enrichissement, enfin de séparation des isotopes. L'expérience montrera que c'est un peu laborieux parce que le débit de la machine n'est pas terrible parce qu'on est en phase gazeuse. Mais bon, c'était sympa au niveau du principe. Alors, le cyclotron, vous connaissez tous le cyclotron. Le cyclotron, c'est une astuce. Donc, c'est M. Lawrence qui a eu aussi le prix Nobel en 1932. Alors, c'est marrant parce qu'il a réussi à mettre ça au point au début de la crise économique. Donc, essayez d'imaginer que M. Lawrence était français et qu'il ait demandé des crédits au ministère pour construire un cyclotron, on en parlerait toujours, parce qu'il n'y avait pas de sous. Mais les universités étaient riches. C'est le système des universités américaines qui ont des droits d'inscription astronomiques et qui ont des budgets astronomiques aussi. Alors, c'est quoi le cyclotron ? Tout simplement, ben, c'est un accélérateur linéaire. Et on a dit, mais si je voulais avoir l'énergie suffisante au bout, il faudrait qu'il fasse 10 km de long. Donc c'est un peu gros pour le mettre dans un labo. Il y a un gars qui a eu une idée en disant, je vais l'enrouler sur même et on change la polarité des deux aimants qui sont dessus-dessous de telle façon que ça fasse une courbe en spirale. Et ça permet de monter l'énergie du faisceau très haut, tout en restant dans la taille d'un labo. Il suffit que le champ magnétique donné par les bobines qui sont dessus-dessous soit suffisant pour confiner finalement ces trajectoires. Vous voyez le système, bon, on inverse les polarités au fur et à mesure que les électrons, on a constaté un autre phénomène sur cette machine qui a l'effet synchrotron, c'est-à-dire en tangentiel à l'extérieur, ça diffuse un rayonnement particulier. Mais ça, c'est pas l'objet de Manhattan. Donc, je vous l'ai déjà dit, ça. Alors, Fermi, il a émigré, non pas parce qu'il était juif, sa femme était juive. Et donc, il a senti le vent du boulet. Il a réussi à avoir le visa parce que lui n'était pas... Puis il était déjà connu dans la communauté scientifique, donc c'est passé. Et dans sa valise, il y en avait un qui s'appelait Goldschmidt. Il l'avait, le français, il l'avait pris dans sa valise. Et après, quand il y a eu la guerre, tous les Français, donc c'était Vichy qui était là, tous les Français doivent être éliminés, et en particulier s'ils travaillent sur le projet Manhattan. Et lui, il a réussi à se faire oublier parce qu'il était vers la frontière canadienne, là, j'ai oublié le nom de l'État, là, qui est juste tangent, enfin, contre la frontière canadienne. Bon, et on l'a oublié, voilà. Il n'a pas été éjecté du système. Niels Bohr, c'était lui le chef des... on l'appellera aujourd'hui un passeur. Vous voyez, hein, dans la terminologie d'aujourd'hui, un passeur de luxe quand même, Niels Bohr. Hein. Et finalement, il a réussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose, non? Bon, ça c'est automatiquement. Il a été exfiltré lui-même, disons en passant par la Norvège, en 1943. Il a failli crever d'ailleurs parce qu'il n'avait pas mis son masque à oxygène. Parce que sa tête était trop grosse et ça ne tenait pas sur sa tête. Et on l'a retrouvé à la limite de la syncope et un peu congelé quand même aussi. Parce que ça volait déjà haut les avions à cette époque-là. Bon, il a survécu. Sûrement grâce à la circulation sanguine dans son cerveau. Voilà. Alors, on vient à notre sujet. Les prémices, la réaction en chaîne. Donc, le neutron. 31, c'est la découverte, mais le Nobel, ça doit être 34, je dis ça de mémoire. Zillard, en 33, suppute la possibilité d'une réaction en chaîne. On comprend mieux comment tout ça s'est fait. C'est sympathique de manipuler des neutrons, mais les neutrons, on ne les manipule pas avec un champ magnétique, donc on les balance direct. Quoi. Voilà. Et la croyance est généralisée sur le fait que c'est impossible qu'une fission puisse se faire, puisque vous avez une petite gobille minable devant un gros noyau gigantesque qui a des forces de liaison extrêmement puissantes. Comment une petite gobie comme ça peut faire quoi que ce soit à part une pichenette? Et c'est la radioactivité. On peut enlever un petit nucléon là par-ci par-là, mais sans plus. Et je vous dirai un peu comment ça s'est passé après dans le détail. Donc, finalement, c'est Otto Hahn qui a fait des manips qui laissaient à penser qu'il pouvait y avoir une fission, sans qu'ils comprennent pourquoi. Et donc ensuite, dans la succession des événements, donc de début fin 38, début 39, il y a eu des essais donc à Columbia. Columbia, c'est l'université de New York, hein, sur l'île de Manhattan, qui est tout à fait au nord. C'est l'université prestigieuse de New York, par Szilard lui-même et Zinn, dont je reparlerai, avec du beryllium et du radium et de la paraffine. Et Joliot et von Alban et Kowarski font les mêmes essais au Collège de France, en France, et déposent le premier brevet au monde, c'est un brevet français, qui dit avec la fission, on peut faire de l'énergie et on peut faire des bombes. Le premier, c'est quand même le paradoxe de l'histoire. Joliot, qui était après un anti-arme nucléaire, militant, c'est lui qui a signé le premier brevet et qui dit qu'avec la fission, on peut faire des bombes. Et tout de suite, on revient à Szilard. Il y a plus d'un neutron à chaque fission et donc possibilité de réaction en chaîne. Alors, en zoomant un petit peu plus sur la succession des événements, voilà la chose. Donc, un article, Anne Strassmann. Strassmann, c'est le neveu de la collaboratrice de Otto Hahn, c'est Lise Meitner, qui, elle, est déjà partie, a été exfiltrée au Danemark d'abord et en Suède, puisqu'elle, elle est juive. Hein, et donc c'est Otto Hahn qui lui a permis de se barrer. Hein. Et donc, tout ça, ça se fait par des câbles et par des lettres. Hein. Ça fonctionnait à cette époque. La guerre est commencée. Hein. Je rappelle, enfin, on est quand même dans une phase délicate. Et l'article, Niels Bohr le reçoit et il l'emmène dans sa poche parce qu'il a un congrès de physique théorique à New York à la fin janvier. Il prend le bateau, il n'y a pas d'avion. Hein. Il prend le bateau. Et ce couillon, il mange le morceau avec un autre physicien qui est sur le bateau. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Alors, l'interprétation de la fission, c'est le modèle de la goutte d'eau. Vous avez dû apprendre ça à l'école, non ? Voilà, donc je... Donc c'est le fait de, il y a une instabilité qui fait que, on assimile ça à la goutte d'eau, c'est-à-dire il faut que le nombre de nucléons soit impair, donc et qu'il y ait un excédent fort en neutrons par rapport au proton, et puis deuxièmement, le noyau se déforme et l'énergie de liaison baisse brutalement et ça permet de casser le noyau en deux. Et donc, on éjecte en moyenne 3 neutrons et on sait aujourd'hui que c'est plutôt 2,6. Ah, voilà un petit slide là que j'ai trouvé sympathique qui raconte un petit peu toute l'histoire. Voilà. Donc la première expérience, ça se passe à Columbia le 25 janvier. Le 26 janvier, Bohr crache le morceau devant tout le public et toute la presse. Alors c'est une époque bénie où les journaux à grand tirage faisaient la une, en 5 colonnes à la une, sur des sujets de physique nucléaire. Peut-être qu'il y a moins de sujets qui le permettent, mais enfin bon, ça paraît un petit peu sur la liste aujourd'hui. Mais ça s'est passé comme ça. Et Szilard, voyant que la proportion que ça prend, il dit, les gars, on arrête de publier. Et ça a mis la puce à l'oreille aux Allemands en disant, c'est bizarre, depuis le printemps, il n'y a plus aucun article de toutes les vedettes qu'on vient de signaler. Je rappelle qu'Otto Hahn, c'est un Allemand. Donc les Allemands étaient au courant de la chose. Mais le fait qu'il n'y ait plus aucune publication, c'est un indice que les Américains se préoccupent de l'utilisation de la fission pour des moyens militaires. Alors là, pour les neutroniciens, je vais faire court, hein, parce que vous connaissez tout ça par cœur. Mais enfin, pour les autres, donc, je rappelle les notions de base. Les sections efficaces, c'est-à-dire la probabilité qu'il y a une particule dans un réseau cristallin de toucher le noyau visé, ben, il y a une certaine probabilité qui s'exprime en surface. L'équation de dimension, c'est une surface. Et ensuite, donc, l'énergie, enfin, l'unité, c'est les barres. Et donc, on voit bien que si on trace une courbe qui représente la probabilité en fonction de l'énergie incidente, eh bien, plus l'énergie est élevée, c'est-à-dire l'énergie naturelle au moment de la fission, ben, la probabilité est faible. Ce sont les neutrons rapides. Quand les neutrons sont à une énergie basse qui est de l'ordre de grandeur de l'agitation thermique du réseau, eh bien, la probabilité est élevée. Ce qu'on appelle les neutrons thermiques. Et donc, toute l'astuce, c'est de dire bah, comment on fait pour passer de là à là. Donc, les fameux modérateurs. Donc, très vite, on détecte les substances qui sont sympas pour ça, l'eau, le deutérium, le graphite, etc., etc., l'eau lourde, etc., etc. Donc ça, c'est identifié très vite dans les mois qui suivent la démonstration de la fission. Et tout de suite derrière, on découvre le plutonium, puisque non seulement on casse les choses, mais on monte en numéro atomique, parce qu'il y a des absorptions de neutrons pour monter d'un cran supérieur par une famille de décroissance. Alors là, ce n'est pas une décroissance, c'est une croissance radioactive. Et ce plutonium, il y a plusieurs plutoniums, mais il y en a un qui a une particularité. Il a aussi la propriété d'être lui-même fissile. Donc très vite, en un an, on sait, j'ai l'uranium, ça fissionne naturellement, mais j'en ai pas beaucoup puisque c'est les fameux 0,7%. Mais le plutonium, si j'arrive à le séparer complètement, là c'est sympathique, et c'est une autre voie pour faire de la fission sur ce seul élément. D'ailleurs, je rappelle donc que les deux bombes, il y en aura une à l'uranium et l'autre au plutonium. Ah, maintenant, on arrive aux acteurs principaux que l'on voit dans le fameux film. Donc, Leslie Groves, c'est le chef militaire, donc qui a fait une belle carrière déjà, mais surtout, il est célèbre dans l'armée pour avoir réussi à construire le Pentagone en 9 mois. Pas mal. Donc les grands chefs, les politiques, le sélectionnent comme... Parce que lui voulait un autre poste. Je voulais partir à l'étranger et tout et tout. Il a fait des pieds et des mains, mais c'est un militaire. Il a claqué des talons. Il a dit, bon, ben, si vous me donnez ça... J'obéis. Et donc, alors, cet individu, il est quand même spécial. Non, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. À ce bonhomme... Il est très intelligent et il est très convaincu qu'il est très intelligent. Donc ça aide déjà. Il est très égotique. Il est exigeant, cassant, sarcastique. C'est pas un rigolo. C'est vrai. Décideur rapide. Essentiel pour le succès de l'opération. Et court-circuit de la hiérarchie, mais j'ai mis entre parenthèses vers le bas. On court-circuite pas vers le haut. Il est militaire. Voilà. On en verra un autre qui ne fait pas la même chose. travailleur acharné, bon oui c'est du full time, et il a un don pour sélectionner les bons collaborateurs. Et contrairement à toute attente, je vous expliquerai un peu comment, c'est un peu expliqué dans le film, comment il a sélectionné finalement Oppenheimer. C'est pas lui qui l'a sélectionné, il a été présélectionné par un certain nombre de personnes, on lui a collé devant, et aux surprises, il a dit « Top là, je te prends ». Alors, pour faire le mariage de la carpe et du lapin, c'était difficile de faire pire. Mais pourtant, ça a marché. Alors voilà. Donc lui aussi est très intelligent. Il est surtout très cultivé, ce qui n'est pas forcément le cas de Leslie Groves. Je rappelle Leslie Groves, c'est des gens qui ont des formations d'ingénieurs. Hein. On verra le dernier de la bande, là, c'est aussi à l'armée, ils ont une formation d'ingénieur. Il est doué pour les langues, c'est le professeur cosinus de la physique nucléaire. Voilà. Et donc évidemment, où est-ce qu'il a fait son doctorat? Et bingo, c'est toujours le même, à Göttingen, bien sûr. Et à Göttingen, il a côtoyé en stage, bien sûr, Max Born, mais aussi Einstein qui passait, parce qu'Einstein, il est à Berlin. Göttingen, vous savez où c'est au milieu du milieu de l'Allemagne. Voilà. Et un spécialiste de la mécanique quantique, il a fait, après le projet Manhattan, la description de l'effet tunnel. Bethe dit toujours que s'il avait vécu, puisque vous savez qu'il est mort d'un cancer au début des années 60, il aurait eu le prix Nobel pour les trous noirs. C'est-à-dire c'était lui qui était le plus avancé au niveau physique théorique sur les trous noirs. Ben, il est mort. Bon, donc il a fait un bon parcours. Oui, 67, il est mort. Et surtout, ce qu'on lui a reproché, c'est bien décrit dans le film, il a côtoyé les étudiants communistes de l'époque. Je rappelle qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a toujours un parti communiste. Bon, ça, les gens ne le savent pas, mais bon, il est marginal, mais ça existe. Bon, alors la romance qu'il y a un petit peu, qui est décrite dans le film, elle est réelle, mais elle a été un petit peu mise, là c'est un peu l'aspect commercial du film, un peu, de mon point de vue, un petit peu trop mise en exergue. Alors, une fois qu'on lui dit, ben, t'es chef de projet, eh ben monsieur Leslie Groves s'en occupe. Donc, on va centraliser tout ça à Chicago. Compton, qui est le directeur scientifique de l'université, on met tout de suite un engineering privé pour manager tout ça, parce qu'il va falloir faire des appareils. Donc, au lieu de faire ça par l'équivalent du CEA, non, on fait ça par Stone et Webster. Alors, c'est le fameux réacteur d'Oak Ridge. Oak Ridge, c'est sur la côte ouest des États-Unis, dans lequel on va faire la production du plutonium, et qui est loin de tout. Hein. Mais il s'est mis là-bas surtout parce qu'il y a beaucoup de barrages électriques, et il faut une puissance électrique importante. Voilà. Donc, en 1942, Groves est nommé. Il est en poste le 23 septembre à OSRD. OSRD, c'est l'origine du système fédéral d'aide à la recherche et développement. Et c'est un certain Bush, Vannevar Bush, qui est le patron de ça. Et on évacue l'équivalent de... aujourd'hui, c'est la DARPA. Ça s'appelait la DARPA, ce qui a inventé, par exemple, l'Internet et les choses comme ça. Donc, Tout le monde en dit beaucoup de bien, mais à l'époque, on dit c'est militaire, on ne met pas des bureaucrates de Washington là-dedans, donc tu te tiens sur le bord de la route. Le 18 septembre, un jour après sa nomination, il dit « Vous me donnez priorité pour les matériaux fissiles ». Un jour pour décider. Ça veut dire que c'est la guerre, donc il y a pénurie générale de toutes les matières premières. Donc il y a un classement prioritaire d'accès aux ressources minérales. Voilà. Le 18 septembre, il achète les terrains à Oak Ridge, un jour après sa nomination. Ça, c'est du Groves tout craché. Le 29 octobre, il a déjà eu le temps de faire. Il rencontre et il décide. Il l'avait rencontré avant, quelques semaines avant, quelques jours avant. Et donc, il dit bah, top là, je te prends. Oppenheimer, on le voit un peu dans le film, il avait un ranch qui venait de sa famille et c'était un cavalier émérite. Et le choix d'Oak Ridge, c'est le choix du ranchman, c'est-à-dire un endroit un petit peu désertique. Et il a dit, moi je connais des coins qui sont sympas pour faire le labo de développement. Donc ils y vont tous les deux à cheval, et il lui montre le terrain, il dit, ok, top là, on le fait. Et le 2 décembre, la pile de Chicago diverge. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Tout simplement, depuis le début de l'année, les gens des labos, Argonne et Chicago, ont bossé et ont fait les fameuses piles, ce qu'on appelait les piles exponentielles. Il y a eu 17 piles successives de fait de plus en plus grosses pour rapprocher de plus en plus l'asymptote de la divergence. Bon, on avait la trouille. Il a failli avoir d'ailleurs un accident. C'est un des collaborateurs de Fermi qui, pour mettre la dernière brique, qui s'est couché sur l'atmosphère, là. Et puis lui, c'est un modérateur. Puis il a vu que la loupiote se mettait à couiner. Et il a compris, pof, il a pris la brique, il l'a jeté comme ça, mais il en avait eu une bonne dose. Parce que le corps humain, c'est de l'eau. Et donc, il avait rendu critique la pile exponentielle simplement en se couchant dessus. Alors, comment tout ça, ça marche ? Ben, au début, pas très bien, parce que Groves, c'est un militaire, il dit ben, « je veux que tout le monde ait une discipline militaire ». Oppenheimer dit « si vous faites des disciplines militaires, moi je me tire, ça ne peut pas marcher, il faut qu'il y ait une concertation entre tous les scientifiques ». Donc, c'est lui qui gagne, contre Groves. Et ils ne sont pas en uniforme, ils sont en blouse, ils sont habillés en civil, et donc, déjà, ça commence à frotter, hein. On fait des conférences croisées, c'est-à-dire on, en permanence, il y a des réunions entre les théoriciens et les expérimentateurs. On essaye de circonvenir ça par les militaires. Le coaching d'Oppenheimer, qui lui n'avait aucune expérience de direction de projet et de mener des équipes, aux surprises, ça marche. Alors qu'on aurait un DH à passer par là, il aurait été éliminé tout de suite. Voilà. Approche intégrée, on en reparlera dans la deuxième conférence, c'est-à-dire on fait en même temps, on fait tout en même temps, tout en parallèle, théorie, labo et développement industriel. Parce qu'il faut aller vite. Et on change les plannings en permanence. Ben ça, c'est la vie des projets de R&D. Alors, la pile de Chicago. Alors là, c'est là que... Merci, monsieur Szilard. S'il n'avait pas été là, je crois que ça aurait foiré. Parce que Szilard a eu l'intuition, tout à fait au début, qu'il fallait un graphite parfaitement pur, et en particulier débarrassé de certaines impuretés comme le hafnium. C'est une terre rare. Hein. Il a demandé à la société comment ça s'appelle, Dupont de Nemours, hein, avec lequel il avait des contacts, de lui faire des barres de graphite raffinées. Les Allemands avaient fait les mêmes essais et ils y sont pas arrivés parce qu'ils ont pris du carbone du commerce, du graphite du commerce. Comme quoi, tout tient à des petits hasards comme ça. Mais ça, on l'a su qu'après la guerre. Et donc, les Allemands, vous le savez, ils étaient partis sur le lourd et non pas sur le graphite. Ah, voilà la fameuse pile, donc la pile qui a été installée sous les gradins du cours de football américain de l'université de Chicago, qui prenait des raclées régulières depuis des années, et le président avait dit, ça suffit, on arrête les conneries avec le baseball de l'université de Chicago. Alors bon, il y avait le stade qui était vide, puis sous les gradins, il y avait des trucs de squash. Et puis on a dit, il demande à Compton où est-ce qu'on peut se mettre, parce qu'il voulait se mettre à Argonne. Je rappelle qu'Argonne, c'est dans les bois, côté Argonne, c'est lié à la bataille de la fin de la Première Guerre mondiale, où les Allemands avaient fait une contre-attaque en char à travers les Vosges en Argonne. Donc il y a beaucoup d'Américains qui ont laissé des plumes dans la contre-attaque des Allemands en 1918. Donc le labo d'Argonne, il n'était pas prêt parce qu'il y avait des grèves des ouvriers de construction. Donc il faut qu'on se mette quelque part, donc on s'est mis dans le cours de Swatch, en pleine ville. Alors, Compton a demandé, alors ok, on peut y aller parce qu'il y a l'histoire des neutrons retardés pour les neutroniciens, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire il y a une toute petite fraction de neutrons qui ne sont pas émis directement, mais à travers d'autres réactions nucléaires qui sont émis avec une constante de temps de l'ordre de 1/10 de seconde, alors que c'est le 1/1000 de seconde pour la réaction de fission. Donc c'est grâce à cette petite portion de neutrons retardés qu'on sait contrôler la réaction en chaîne. Donc très bien, donc ça avait été découvert dans les essais préliminaires. Donc on fait la pile, donc il y a eu 17 piles dites exponentielles, et la dernière c'est celle-là, et il n'y a pas de photo, parce que ça n'a jamais été pris en photo. Et ce que vous voyez, ce sont des dessins faits par des gens qui étaient dans l'équipe qui ont fait les essais. Donc vous voyez, il y a un gars qui est là avec une corde, et puis la barre de contrôle la barre de sécurité pour lâcher la barre de contrôle. Et puis il y a un gars qui est en bas là, qui est là pour tirer les barres de contrôle qui sont là horizontales. Et puis il y a Fermi avec toute la bande qui est là vers les appareils, qui est avec sa règle à calcul, puis qui lui dit tu tires celle-là de 10 cm. Puis on regarde ce qui se passe sur le détecteur. Donc tout le monde. Bouille. D'ailleurs, le jour du 2 décembre, le matin, il y a le gars qui était au-dessus, qui a eu la pétoche, il y a eu une sonnette qui est sonnée, tac, il a coupé la ficelle, et, alors qu'il n'y avait rien. Il avait tellement la trouille, et donc le réacteur s'est éteint. Alors, Fermi, il est toujours cool as a cucumber, il s'énerve jamais. Il dit, bon, les gars, on va manger. Hein? Donc, ils sont allés manger. Puis après, l'après-midi, le nerveux, on l'a enlevé. Et ils sont montés progressivement en puissance. Et à 1 watt, ils ont obtenu la divergence. Et donc, jusqu'en février 43, donc deux mois après, ils ont continué à le manipuler avec. Et ils l'ont tout démonté pour le casé à Argonne. Alors je rappelle quand même une chose, j'ai cité la règle à calcul, voilà les ordinateurs de l'époque. Il n'y a pas d'ordinateur. C'est Olivetti ou IBM ou Burroughs. Voilà. et règle à calcul. Et calcul à la main. C'est pas inutile de le préciser, pourtant il est. Alors, maintenant, autre sujet, la séparation des isotopes. Donc, je vous l'ai dit, l'uranium-235, solution de référence. On trouve le plutonium, alternative. Donc, dans les deux cas, comment on fait pour séparer? Je rappelle, il n'y a pas de moyen chimique de séparer des isotopes, il faut des moyens physiques. Donc, on essaye d'utiliser toutes les propriétés qui peuvent permettre de différencier les composés des différents isotopes. Donc, la liste, elle est là. Diffusion thermique, spectrométrie, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. La diffusion gazeuse, ça, c'est un procédé qui a été proposé par la marine, par les labos de la marine. Et la centrifugation, qui a été refusée. Parce qu'on a dit technologiquement, on n'y arrivera jamais. Je rappelle qu'aujourd'hui, 100% de la séparation isotopique est faite par centrifugation. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la technologie ne permettait pas de le faire. Voilà, donc. Je rentre pas dans le détail de l'explication technique. On trouve tout ça dans la littérature. Cette méthode-là, elle a quand même été utilisée en complément de la séparation électromagnétique parce qu'on n'arrivait pas à faire suffisamment du 235 avec une usine spécialement faite pour ça dans un labo de la marine. Voilà la transposition donc du spectromètre de masse pour la séparation des différents isotopes. Donc voilà les ions 235 et les ions 238 qui tombent. Les ions 238, ben, ils tombent sur le chanfrein, là, puis les ions 235, ils tombent dans la gamelle. Là. Mais le débit, c'est en phase gazeuse, le débit de tout ça, il est tout à fait catastrophique. Mais il faut dire que Lawrence avait un grand pouvoir de persuasion dans le système. Et voilà. Et donc la transposition, la voilà, c'est ce qu'on appelait horse track, donc champ de course, in French, in the text, parce que c'est la forme d'un hippodrome. Alors, il y a des nanas qui sont dans un couloir central, là, qui tournent des boutons pour régler toute la focalisation des faisceaux, elles comprennent rien à ce qu'elles font, on leur dit bah, tu fais que l'aiguille elle soit bien en face de ce machin-là. Il y avait 20 000 nanas en poste, 4-8, pendant 3 ans. Quand la bombe a pété, les 20 000 nanas, retour à la maison. Et on leur a jamais expliqué ce qu'elles ont fait. Les bobinages. Pour avoir un grand champ magnétique, il faut des bobinages, il faut beaucoup de cuivre. Le cuivre, il n'est pas en AAA, parce que le cuivre, on a besoin partout ailleurs dans la guerre. Comment on va faire? Eh bien, on a pris l'argent de Fort Knox. Les réserves monétaires d'argent des États-Unis ont été toutes fondues, tréfilées. On a fait les bobinages. Une fois que la guerre était finie, on a tout refait des lingots. Et on l'a remis à Fort Knox. Voilà, c'est les petites histoires de la grande histoire. Vous savez que l'argent est un excellent conducteur. Et voilà la diffusion gazeuse. Donc la différence de vitesse de diffusion dans une matrice poreuse, si vous voulez. Et puis, en faisant ça d'une façon étagée, au bout du bout, on a plus de 235 à un bout d'un tuyau que la concentration classique. C'est la technique qui a été utilisée à Eurodif, donc à Tricastin, en France. Hein. Et maintenant, pour produire le plutonium, il faut un gros cube qui est à Hartford, comme je l'ai dit. Hein. Donc, qui est une transposition déjà d'un, d'un réacteur qui était à Oak Ridge, le X10. Et donc à Hartford, on a fait la même chose, mais plus gros. Donc tubes horizontaux, canaux horizontaux. Voilà. Mais c'est le même principe. Alors voilà le diagramme schématique de la séparation chimique. Donc je serais bien incapable moi-même d'en faire l'exégèse, ça n'a aucune importance. Et donc le fameux Goldschmidt dont je vous ai parlé tout à l'heure était dans les équipes qui ont mis au point cette technologie. En particulier dans ce bâtiment que vous voyez, la photo intérieure, jamais aucun homme n'est rentré là-dedans. Tout était fait en 1944 par télémanipulateur. Il n'y avait pas d'automatisme et de machin comme ça, c'était tout fait par télémanipulateur, comme dans les boîtes à gants, si vous voulez. Hein. Alors voilà les lieux principaux. Donc le projet Manhattan, ben c'est à New York. Argonne, le voilà. Hein. Hartford, c'est là. Les deux endroits, donc Los Alamos, il y a l'endroit. Le village qu'on voit dans le film, c'est l'endroit où tous les techniciens, tous les scientifiques étaient liés. Mais l'endroit où ça a pété, c'était pas à côté du labo, c'était à 120 km au sud, donc à Alamo Gordo. Et puis donc Oak Ridge, donc dans le Tennessee, pour les labos de départ de R&D. Voilà un plan d'Oak Ridge. Bon. Voilà, alors vous reconnaissez des choses que vous avez vues dans le film. Hein, voilà, la cabane du gardien. Et il y a une boîte postale. Vous lirez ça dans les bouquins, je ne me souviens plus. C'est très. Alors tout a été construit en bois et donc c'est sympa. Hein. Et il y avait une vie interne de tout ce village. Il y avait beaucoup, les épouses étaient avec les scientifiques, parce que l'essentiel était quand même des hommes. Et ça faisait beaucoup de bébés. Le général s'en est ému. Au lieu de faire des bébés, vous feriez mieux de faire la bombe. Alors on lui a dit, écoute, hein, ferme-la. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Hartford. Voilà. Alors, ces réacteurs seront le modèle qui va servir aux piles G1, G2, G3 de Marcoule en France. C'est des transpositions françaises du réacteur d'Hartford. Et voilà le fameux. Ce que la photo intérieure, je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on appelait le Queen Mary. Parce que la taille du bâtiment, c'était la longueur du Queen Mary, le transatlantique. Et donc, personne n'a jamais pénétré après que ça ait commencé à fonctionner à l'intérieur. Parce que là, ils auraient été bien cuits. Voilà. Alors, ça a mis en œuvre 130 000 personnes. Et ça a coûté 2,6 milliards de dollars de l'époque. Et pourtant, ça n'a coûté que 1% des dépenses de guerre américaines. Contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, parce que les dépenses de guerre américaines, c'était essentiellement l'armement conventionnel. Bateaux, avions, voitures, camions. Et les militaires, les munitions et tout et tout. Voilà. Et donc, l'essentiel de la dépense, ça a été la construction des infrastructures, et non pas les salaires, les traitements des gens qui ont travaillé. Alors, un point très important, c'est ça. Ça, c'est la culture anglo-saxonne. Dès un an avant la fin du projet Manhattan, les scientifiques plus Groves, il avait donné son accord, il faut qu'on fasse un rapport qui sera publié après l'utilisation des bombes. il a demandé à un physicien qui s'appelle Smith, et ça demandait quand même du temps de travail, et tous ces ouvrages étaient tirés à 1000 exemplaires sur papier glacé, le machin, 1000 exemplaires. Donc 9 août, la deuxième bombe pète. Deux jours après, on annonce l'existence de ce rapport et c'est mis à disposition du public. Essayez d'imaginer le même scénario en Russie, on a du mal à pouvoir l'imaginer. Donc la culture de partage des connaissances était restée vivante dans le projet Manhattan, malgré le secret militaire. Donc évidemment, c'était expurgé des choses qui pouvaient être sensibles du point de vue secret militaire, mais c'était un rapport de physique. Et je sais pas, enfin, vous avez jamais, c'est pas lisible, c'est pas un polar, hein. C'est vraiment un bouquin de physique, c'est costaud. Hein. Et après, ça s'est vendu à 130 000 exemplaires, oui. 130 000 exemplaires, mais en livre de poche. Pas en livre de poche, mais enfin en publication en public. Donc voilà. Et ça, c'est un point important qu'on retrouvera dans le deuxième exposé. Alors qu'est-ce qu'on a gagné avec ça, en dehors d'avoir foutu la bombe sur le Japon? On y reviendra. Ben, on a gagné toute l'infrastructure des labos de R&D. Et si vous regardez dans aucun autre pays du monde, il y avait l'équivalent. Il y avait en Russie, si. Il y avait l'Institut Gourchatov. Ben ça, on l'a su après. Mais donc, tout était... Alors, je rappelle que le CEA a été fondé, comme vous le savez, par le général de Gaulle en novembre 1945. L'équivalent du CEA américain n'a commencé que le 1er janvier 1947. Donc le premier pays qui a eu une structure civile, donc contrôlée par les politiques, de développement de l'énergie atomique, c'est la France, pour des raisons historiques. Et pourquoi ça s'est fait? Tout simplement, c'est que Goldschmidt lui avait expliqué ce qui allait se passer. Après, il a bien vu ce qui allait arriver. Il avait des conseillers comme Jean Perrin, comme Joliot-Curie, bien sûr. Et il l'a nommé, évidemment, président, je ne sais plus comment ça s'appelait, chef du CEA. Hein. Et il était chef du CEA jusqu'en 1950. Ouais, je ne sais pas si mauvais que ça. Voilà. Et donc, les conclusions. Eh bien, l'émergence de la bombe atomique était, je pense, inéluctable. Vu les informations qu'on avait, on a su qu'après la guerre, que les Allemands ne l'avaient pas et n'étaient pas prêts de l'avoir, pour des raisons diverses et variées. Donc, c'est pour ça que Szilard a fait toute une manifestation au mois de juillet, juste avant que la bombe pète à Lamogordo. Il a dit qu'il faut arrêter, puisque finalement, l'Allemagne a capitulé, on n'a plus besoin de la bombe. Et là, on lui a répondu, d'abord, la bombe, on l'a faite. Et puis, deuxièmement, il y a toujours le Japon qui est en guerre. Et c'est très chaud. Donc, il y a eu tout un débat. Truman, le président de l'époque. Je rappelle que Truman a découvert l'existence de la bombe 15 jours après avoir été nommé comme président suite au décès de Roosevelt. Roosevelt lui en avait jamais dit un seul mot. C'était secret. Donc Truman a découvert le bébé. Donc c'est pas lui qui a... Enfin, il a validé la décision finale de dire on lance les bombes, de la façon dont ça a été fait, mais il y a eu 3 semaines entre le 16 juillet et le 6 août, où d'intenses débats de toutes des commissions théologiques diverses et variées, sous le secrétaire d'État, qui est le ministre des Affaires étrangères, Stimson, et la conclusion, ça a été, on fait ce qui a été fait, et c'est à un point tel, une fois qu'on a vu l'ampleur des dégâts, c'est qu'il y a eu un rapport qui est sorti dans la presse en 1947, dans la presse grand public, qui a dit en long, en large et en travers les raisons et tout l'argumentaire en faveur et contre l'utilisation de la bombe, de la manière dont ça a été fait. Et ça, ça n'existe qu'en anglais. On est les seuls à l'avoir traduit en français. Et il est disponible sur notre site. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai passer le lien. Voilà. Donc la course aux armements, elle est en germe derrière tout ça. Bien sûr, c'est ce qui est en germe aussi, c'est la théorie de la dissuasion. La puissance destructrice est telle que celui qui l'utilise sera détruit lui-même par l'arme. Voilà. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que dans des conflits, j'espère que ça va durer, on n'a jamais encore utilisé cette arme dans le qu'on appellerait aujourd'hui tactique. Donc, pourvu que ça n'arrive pas. Mais donc il y a eu une phase où il y a eu un peu une réduction des têtes nucléaires, mais aujourd'hui, on voit bien que la situation du monde n'est pas favorable à une évolution dans le bon sens. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'ai à peu près... Alors, j'ai mis la bibliographie, comme toujours. Hein, et voilà, donc, vous avez le lien sur la Smith Report. Et voilà, donc si vous avez du temps, perdre Manhattan District History, voilà, 35 volumes et 39 annexes. Voilà, ça tient sur toute la table là-bas. Voilà. Je vous remercie de votre attention, puis je vais m'arrêter là. Alors, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Bof. Oui. Mais mettez bien. Comment ? Ah ben non, là, il n'y a pas eu de dose au moment à Chicago. Celui qui a pris une dose, c'est celui qui s'était couché sur les piles exponentielles. Parce qu'il y a eu d'autres accidents dans les essais où il y a eu des fausses manips, surtout des choses en phase liquide, c'est-à-dire c'était dans la filière plutonium. Vous savez que la masse critique, c'est 400 grammes en phase liquide. Et donc là, c'est facile, si vous rapprochez deux fioles, d'avoir un petit truc. Voilà. Donc il y a des gens qui sont morts, quelques-uns. Puis dans les essais de criticité, je rentre pas dans le détail, il y avait une machine un peu compliquée, on laissait tomber aussi une barre comme ça, en passant à travers, si vous voulez, on avait une pile, et puis on faisait tomber la barre, mais elle passe à travers complètement le cœur. Mais quand elle était dans la pile, au moment de sa descente, on était divergent. Et donc là, il y avait des appareils, mais et des fois, bah, c'est un peu coincé. Et puis, pff, voilà. Bon, il y a des gars qui en ont pris plein les mirettes. Donc, il y a eu quelques accidents, mais mineurs, sur les labos. Alors, bon, voilà. Vous savez, les cancers... Donc, vous voyez, Fermi est mort d'un cancer en 67. Il a dit dans ses mémoires que c'était parce qu'il mangeait des cochonneries. C'était déjà le junk food, vous voyez, c'était ça le en 57, hein, faut remettre les choses dans l'ordre. Bon, on ne sait pas, vous savez, les origines des cancers, mais vous regardez Bethe, alors je sais bien que c'était un théoricien, Bethe, donc j'en ai parlé plusieurs fois, là, il est mort à 99 ans. Donc, vous allez me dire, il était dans son bureau, il faisait des calculs, il ne voyait pas beaucoup les rayonnements, mais enfin bon, il était dans un environnement particulier. Bon, voilà. Bon, eh bien, je fais une petite pause, si vous le permettez. Alors, j'arrête mon truc.